13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis comme à mon habitude et avec un ravissement certain de me retrouver à côté de ma camarade Ombline pour toute cette semaine.
Bonjour Olivier,
comment allez-vous ?
Bien, merci.
Nous partageons pendant cette heure, comme vous le savez, vos expériences de vie, qu'elles soient légères, intenses, difficiles ou particulières. Car Europe 1, chaque jour, s'intéresse à votre vécu. La maltraitance des personnes handicapées est un sujet tabou, souvent placé dans des centres spécialisés ou des instituts médico-sociaux ou éducatifs pour les enfants. Ce sont des personnes vulnérables. En 2015, la lanceuse d'alerte Céline Boussier a dénoncé des actes de maltraitance envers des enfants, des adolescents et de jeunes adultes polyhandicapés pensionnaires d'un institut dans lequel elle travaillait. Négligence, coûts, manque de personnel. Depuis ces révélations, beaucoup sortent du silence et les témoignages font froid dans le dos. Alors comment éviter un tel fléau ? Quelle prise en charge proposer ? Maltraitance sur personnes handicapées, comment faire pour évoluer les pratiques ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez le 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Comment faire évoluer les pratiques pour ces enfants, ces polyhandicapés placés ? Nous allons en parler avec Isabelle, que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Isabelle, pardon ?
Alors moi j'ai 50 ans et j'appelle de Mamy, dans le Nord.
D'accord. Alors vous êtes la mère d'un enfant de 10 ans, polyhandicapé. Il est dans un centre depuis l'âge de 3 ans. D'abord, décrivez-moi dans quel type de centre est-il ?
Alors, c'est un centre pour enfants polyhandicapés.
Oui.
Donc, c'est un peu mélangé. Il y a des enfants comme moi, Gaëtan, ne bouge pas, ne marche pas. Il y a d'autres enfants qui marchent, mais ils ont d'autres handicaps. Mmh. Et donc, Gaëtan est là-bas depuis l'âge de 3 ans.
Oui. Ça se passe comment là-bas, en fait ? Parce que... Vous dites qu'il y a eu plusieurs incidents concernant votre fils. Vous dites qu'en 2015, il est rentré avec une brûlure sur le bras et oui. qu'on ne vous en a pas trop dit sur l'origine de cette blessure.
Oui, on ne m'a rien dit du tout. Donc Gaëtan part la semaine, c'est-à-dire qu'il part le lundi matin et rentre le vendredi après-midi à la maison.
Oui.
Et donc il est rentré en 2015. On m'a dit, on a juste noté sur son cahier de correspondance que Gaëtan avait une petite rougeur.
Oui.
Et quand j'ai regardé cette rougeur le soir, il y avait un pansement dessus et c'était une grosse brûlure. Mmh. Donc quand je les ai contactés, ils n'ont pas su s'expliquer. Ils m'ont dit que pour nous c'était une petite rougeur, qu'il n'y avait rien de grave, alors que c'était une belle et grosse brûlure.
Alors que Gaëtan est dans l'impossibilité de manipuler quoi que ce soit
oui,
qui puisse provoquer...
Il ne bouge pas.
Voilà. D'accord.
Non, il ne bouge pas. Gaëtan, il a 10 ans, mais il est comme un bébé. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Mm-hmm. Il n'utilise même pas ses bras, ni les jambes.
Lorsqu'on vous a donné ce type d'explication, en fait, comment est-ce que vous les avez reçues, ces explications ? Vous avez posé des questions ?
Oui, j'ai posé des questions s'il l'avait attaché, parce que comme le médecin... Mon médecin traitant l'a consulté, il s'est posé la question s'il avait été attaché.
Ouais.
Donc, ils m'ont confirmé que non. Et aucune explication, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui a pu se passer.
Elle pouvait correspondre à quoi, cette brûlure, à votre avis, vous ?
Moi, pour moi, j'ai pensé qu'il avait été attaché aussi. Ouais. Ou alors, avec de l'eau chaude au niveau du bain, c'est ce que je me suis dit.
Alors, 2 ans plus tard, votre fils est rentré avec une douleur vive. Vous avez essayé de l'ausculter, mais dès que vous le touchiez, il hurlait. Vous avez ensuite découvert ce qu'il avait. Racontez-moi.
Oui, donc il est rentré le vendredi après-midi, en fin d'après-midi. Et j'avais eu encore un appel le midi de l'infirmière pour me dire que Gaëtan était douloureux, mm-hmm. mais sans plus, on lui avait donné du Doliprane. Donc j'ai attendu son retour. Dès qu'il est rentré, Gaëtan est dans un fauteuil roulant, j'ai voulu enlever ses attelles. Et quand j'ai enlevé celle du côté gauche, il s'est mis à pleurer.
Ouais.
Et il ne bougeait pas du tout sa jambe. Et de ce fait-là, bon, j'ai pu oser le toucher. J'ai fait appel à mon médecin traitant. Il s'est déplacé le soir parce qu'il était en consultation.
Ouais.
De là, on a essayé de manipuler Gaëtan. Quand on a vu pensée était gonflée.
Ouais.
De là, mon médecin traitant m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, il fallait aller aux urgences pour faire des radios. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec Gaëtan. On est arrivé au centre hospitalier de Douai. Ils l'ont pris en charge. Ils lui ont fait des radios. Et de là, ils m'ont posé la question si je l'avais fait tomber ou pas. Je leur ai dit non, je l'ai récupéré tout à l'heure parce qu'ils m'ont annoncé qu'il avait l'os du fémur cassé et déplacé.
Bon, donc, vous avez dû affronter le même silence que d'habitude de la part de l'institut dans lequel votre fils est placé. Pourquoi, à votre avis, un tel silence? Et puis, on va passer ensuite à votre réaction, bien évidemment, puisque vous avez porté plainte. Mais à votre avis, pourquoi vous n'avez le droit à aucune explication?
Eh bien, c'est ce que je me suis dit. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas engager leur responsabilité. Ils veulent cacher. Gaëtan est rentré le vendredi, il restait le week-end à la maison. Comme ça, le lundi, s'il rentrait, on pouvait me dire que c'était moi qui l'avais fait tomber.
Ouais.
Voilà, c'est ce que je pense, oui.
En fait, en gros, on voulait vous faire porter la responsabilité de cette blessure.
Je pense, oui.
Cette plainte que vous avez portée ensuite, est-ce que, où est-ce qu'elle en est, cette plainte, aujourd'hui? Est-ce qu'elle a été suivie?
Elle a été suivie. Au début, quelques mois après, il y a eu un classement sans suite.
Oui.
Parce qu'ils n'ont eu aucune preuve sur ce qui s'est passé. Donc, moi et le papa de Gaëtan, on a réécrit au procureur général. Et là, il a réouvert le dossier. Donc, il y a des nouvelles investigations qui sont toujours en cours actuellement.
D'accord. Bon, depuis, vous avez changé Gaëtan d'établissement.
Oui.
Ça semble se passer mieux pour l'instant, même si vous restez très vigilante. Oui. Mais ma dernière question, Isabelle, comment faire évoluer les pratiques dans les centres pour personnes handicapées, selon vous, pour que tout ça n'arrive pas et qu'on puisse informer les parents lorsqu'il y a un problème? Parce qu'on peut affronter tous les jours des problèmes dans n'importe quel corps de métier.
Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai dit, Gaëtan, moi-même, je peux le faire tomber, mais la moindre des choses, c'est d'appeler les parents, dire, madame, Gaëtan, il y a eu un problème, on l'emmène à l'hôpital, on va s'occuper de faire le nécessaire, voilà, mais avertir les parents dès qu'il se passe quelque chose, mais aucune prise en charge alors qu'ils sont professionnels. Donc, moi, je pense qu'il faut, les personnes qui travaillent dans ce domaine, elles doivent vérifier leur dossier, que ce soit des personnes compétentes.
À qui vous demandiez, en fait, des comptes à ce moment-là? Parce qu'on peut... On peut penser aussi que les personnes à qui vous demandiez des comptes étaient sommées de ne pas vous répondre, parce qu'on sait qu'elles sont soumises aussi à un certain droit de, je ne sais plus comment on appelle ça, comme dans la police. En tout cas, elles ne peuvent pas répondre à tout, et puis la direction peut leur imposer le silence aussi. Est-ce que vous avez eu cette impression?
Non, je pense plutôt qu'ils veulent toujours, ils veulent cacher, parce qu'on a, on a eu un rendez-vous avec le grand directeur, Monsieur Tourtois de l'UNO, qui n'est plus directeur actuellement, et donc il nous a confirmé qu'il a interrogé tout le personnel qui s'est occupé de Gaëtan cette semaine-là,
oui.
Qui confirme ne pas l'avoir fait tomber,
qu'il
était lui-même choqué, et d'ailleurs il n'était même pas au courant pour la brûlure de Gaëtan quand on lui en a parlé, et Gaëtan avait été vu aussi par un médecin spécialisé. Qui avait consulté Gaëtan ce jour-là, ce vendredi.
Oui.
Et qui confirme être passé à côté de quelque chose.
Bon, en tout cas, Gaëtan s'est brûlé de manière assez importante. Il s'est cassé l'os du fémur. Et puis, en fait, personne n'a rien remarqué. Donc, on a des questions à se poser. En tout cas, depuis, ce qui est rassurant pour vous, c'est qu'il a été changé d'établissement. Merci Isabelle pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Laurent. Son fils trisomique et autiste a été victime de maltraitance et il a réussi à faire condamner les dents qui étaient mis en cause.
Europe 1. Comment faire pour que les personnes handicapées soient bien traitées dans les centres dans lesquels elles sont placées? On vous écoute au 3921. Vous réagissez, vous posez vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous échangez avec Olivier Delacroix au 3921 sur Europe 1. On parle de la maltraitance des personnes handicapées dans les établissements spécialisés. Comment lutter contre ce fléau?
Et Isabelle nous expliquait il y a quelques instants que Gaëtan avait été victime d'une brûlure et puis ensuite d'une fracture de l'os du fémur, sans que personne ne prenne de responsabilité de tout cela dans le centre qui l'accueillait à l'époque. Depuis, Gaëtan a été changé, bien évidemment, de centre. Et Isabelle reste vigilante. Nous sommes maintenant avec Laurent. Bonjour Laurent, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Que vous inspire ce que vous venez d'entendre d'abord, ce témoignage d'Isabelle ?
Ben, au niveau de... Il y a quand même des similitudes par rapport à notre affaire et puis à celle de, hein, qu'on vient d'entendre, à savoir hein, que les responsables des établissements ne prennent pas leurs responsabilités quand il arrive des problèmes comme ça.
Ouais.
Hein, c'est ce qui est arrivé pour nous. Mmh. Hein, ça fait 8 ans qu'on est en justice avec eux et...
Alors, je vais résumer votre histoire, Laurent. Vous avez donc 68 ans. Lorsque votre fils est né, il souffrait d'une trisomie, d'une cardiopathie. Il était autiste. Il fallait l'accompagner dans tous les actes de la vie courante. Pendant 20 ans, il a fréquenté la même maison d'accueil à mi-temps. Vous dites qu'il semblait y être malheureux, mais comme cet enfant ne parlait pas, il vous était très difficile de comprendre son désarroi. Racontez-moi ce que vous sentiez, ce que vous pressentiez.
Ben, disons qu'il avait des réactions, pas tellement au début, mais disons au bout de quelques années, 2 ou 3 ans peut-être.
Oui.
Il refusait de descendre quand on allait conduire. On se stationnait devant l'établissement, il refusait de descendre. On était obligé de le forcer un peu. Et puis il s'est mis à se forcer à venir, à déchirer ses vêtements, enfin, à souiller sa chambre avec ses excréments, enfin bref, des attitudes qui n'étaient pas trop normales.
Vous avez identifié que tout cela venait de son retour à chaque fois dans le centre
Oui, enfin, disons qu'il l'a fait quelques fois chez nous, mais c'était beaucoup plus rare.
D'accord. C'était
Alors,
plus...
ce qu'on a fait.
C'était plus là-bas, en fait.
Voilà, c'était plus là-bas. Mmh. Et donc, surtout avec certaines personnes. Mmh. Et donc, bah, disons que c'était sa réaction par rapport à son état, hein, son autisme. Et c'était sa réaction et bah, qu'il avait, vu qu'il ne pouvait pas s'expliquer, qu'il ne parlait pas du tout. Hein. Et donc... on a organisé des visites avec le personnel plus un psychiatre, hein, c'est-à-dire que on faisait une réunion avec lui,
oui.
Bien sûr, notre fils, un psychiatre qui était habilité donc pour la maison d'accueil, mm-hmm. ainsi que l'infirmière, la chef de service et une éducatrice référente. Et donc on passait 1 heure à discuter. Et finalement, hein, ça a duré plusieurs mois.
Oui.
Et rien n'en sortait. Mmh. Et donc, il a fallu qu'il y ait un changement de poste, une nouvelle chef de service, qui n'a pas voulu endosser, si on peut dire, tout l'historique de la masse.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on a réussi à savoir qu'un éducateur l'avait pris en grippe.
Mmh.
Et on avait fait sa bêtement.
Alors, ce que vous avez appris est assez terrifiant, hein, puisque votre fils était victime de maltraitance de la part de cet aidant médico-psychologique, un AMP, hein, comme on les appelle. Que subissait-il au quotidien ?
Eh bien, il le mettait à l'extérieur. Hein, vu qu'il vomissait des fois pour dit toujours en réaction par rapport à ce qu'il vivait, eh ben il le lavait en extérieur sur une terrasse au jet d'eau, hein, comme on aurait fait pour même pas fait pour un chien quoi. Et, ou alors il l'enfermait nu dans sa chambre,
oui.
Pour ne pas qu'il déchire ses vêtements. Ou alors quand c'est un MP était de service le week-end, c'est-à-dire qu'il travaillait le samedi et le dimanche, pour ne pas que notre fils vomisse, il ne lui donnait pas à manger.
Mmh.
Il ne faisait pas sa toilette. Enfin bref.
Quelle a été la réaction de la direction et de vous lorsque vous avez appris tout ça? D'abord, est-ce qu'on peut bouger quand quelle était votre marge d'intervention pour que tout ça s'arrête enfin?
Disons que nous, l'affaire a été déclenchée, c'était en 2010.
Oui.
Hein, en septembre-octobre 2010. Nous, on a été prévenus qu'au mois de mars 2011. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'entre-temps, l'AMP avait été suspendu, donc il ne travaillait plus.
Oui. Hein.
Et donc, vers la mi-mars, on a été prévenus. On a eu une réunion avec le directeur. Oh, ben, la direction, au départ, était tout à fait avec nous. Elle voulait prendre ses responsabilités. Elle nous a laissé croire que ça allait faire une... qu'ils allaient déposer plainte également contre l'AMP. Plus...
Vous dites que cette AMP, vous m'avez dit que cette AMP était intouchable. Qu'entendez-vous par là?
C'est-à-dire qu'il était délégué de syndicat, délégué du personnel, il faisait partie du comité d'entreprise.
Ouais.
Hein, et donc, il faisait chanter plus ou moins tout le monde. Mmh. Il exerçait des pressions psychologiques sur ses collègues, qui étaient beaucoup plus jeunes, parce que lui, il était pas loin de la retraite déjà.
Ouais. Ouais. La fin de l'histoire, c'est que cette AMP a pris sa retraite tranquillement, sans être inquiété. Hein.
Oh non, ça a été beaucoup plus compliqué que ça.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'au départ, la direction... Au départ, il n'y avait pas que moi, que notre fils qui était victime. Mm-hmm. Il y en avait 12. Une douzaine, 12 ou 13 de répertoriés.
D'accord.
Il y en avait... Donc, dont les familles, je me demande si elles ont été prévenues, parce qu'on ne sait pas encore. D'autres qui étaient sous tutelle.
Oui.
Enfin, on a déposé plainte, nous, en compagnie de la présidente de l'association de tutelle. Hein, parce que vu qu'elle avait 2 ou 3 protégés dans toutes les victimes.
Mais est-ce que cette AMP a été donc condamnée? Et à quoi?
Oui, alors on est passé au tribunal de Cherbourg. Quand au tribunal local, au tribunal correctionnel, il a été relaxé.
Oui.
On est allé en cour d'appel, relaxé. Hein, le relax a été confirmé. Ensuite, on a fait un recours en cassation. Et là, si vous voulez, les jugements ont été cassés. Hein, pour la partie civile de l'affaire.
Et est-ce qu'il a été condamné, au final?
L'affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Rouen. Et là, il a été condamné. Il a été jugé responsable de ses actes.
D'accord. Et donc, condamné à quoi?
À 2000 euros de... pour comment?
D'accord.
Pour dommages et intérêts. Mmh. Hein, et 3000 euros.
Bon, en tout cas, il a été condamné à des dommages et intérêts. Et est-ce qu'il a pris de la prison avec sursis?
Ah non, pas du tout. Non.
D'accord. Non, mais c'est il faut voir que finalement, 2000 ou 3000 euros de dommages et intérêts, peut-être que pour ce monsieur qui ne devait pas gagner non plus des milliers des cents, c'était peut-être lourd. Mais on voit que dans votre histoire, cet homme impunément pendant des années... mal comporté avec une dizaine ou une douzaine de pensionnaires de la maison qui les accueillait et qu'au final, rien ne s'est passé. C'est ce que l'on tirera comme conclusion de votre histoire. Merci en tout cas d'avoir témoigné cet après-midi sur Europe 1, Laurent. Dans quelques instants, nous accueillerons Céline Boussier. Elle a lancé l'alerte sur les maltraitances envers les personnes handicapées. Elle publie aujourd'hui le livre « Les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas ».
Europe 1. Comme Laurent, votre enfant, l'un de vos proches a été victime de mauvais traitements dans sa maison d'accueil ou au contraire, vous avez fait ou vous travaillez dans un établissement qui milite contre les maltraitants. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Des négligences, des violences psychologiques, physiques, un personnel dépassé, des mauvais traitements dispensés aux personnes handicapées dans des maisons spécialisées. Vous en avez été témoin. Vous êtes avec Olivier Delacroix, 39-21 pour nous appeler.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Céline Boussier. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci
de
laisser la parole aux parents et de me laisser la parole. Et ce que vous faites est extrêmement courageux comme émission parce que c'est effectivement un sujet tabou, on n'en parle pas assez et ça mérite d'être souligné.
Mmh, mais je vous remercie, mais je pense que c'est normal que nous donnions la parole tous les jours à ceux que nous n'entendons pas souvent, voire même jamais. Merci à vous d'être là cet après-midi avec nous. En 2015, Céline Boussier, vous avez dénoncé à la presse des actes de maltraitance envers des enfants, adolescents et jeunes adultes polyhandicapés qui étaient dans l'institut médico-éducatif pour lequel vous travaillez. Aujourd'hui, vous publiez le livre « Les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas », disponible aux éditions HarperCollins. Quel type d'actes de maltraitance et de négligence avez-vous été témoin ?
De multiples actes de négligence et de maltraitance, des enfants brûlés qui n'étaient pas soignés suffisamment à temps. Cet établissement a eu quand même 5 enfants décédés. J'en parle assez longuement dans le livre pour défaut de négligence et de soins. Une sexualité, parce qu'on n'en parle pas, c'est un sujet tabou, mais et pourtant, une sexualité qui était niée et qui emmenait les plus grands à se masturber devant les plus petits, garçons, filles mélangées, un manque d'intimité, de soins. Mais le plus dramatique dans tout ça, c'est que cet établissement avait déjà été dénoncé dès 1995 et que les 3 éducateurs, donc de 1995 et 1999, ont été injustement condamnés à tort pour avoir dénoncé exactement les mêmes faits que ceux que j'ai dénoncés en 2015.
Mmh. Et comment vous expliquez que cela ait duré aussi longtemps, tout ça ?
Il y a d'abord une négligence et une responsabilité des pouvoirs publics, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les établissements du social, du médico-social et du sanitaire et social sont soumis à des contrôles qui sont exercés par les agences régionales de santé. Et ces organismes-là sont des organismes d'État. Et puis après, en ce qui concerne cet établissement, il y a eu clairement, et là encore je l'explique dans le livre, des collusions et des connexions politiques de manière évidente.
Ouais.
Parce que cet établissement avait, en 1995, bénéficié de fonds public, donc tout le monde, voilà, quand vous êtes imposable, vous contribuez, et qu'on se demande aujourd'hui où est passé cet argent public qui aurait dû servir à réhumaniser les bâtiments qui avaient été dénoncés déjà auparavant.
Mmh. Mais il est beaucoup question dans tout cela du personnel. Est-ce que ce personnel soignant, aidant, est-ce qu'il est assez formé, pris en charge ? Est-ce qu'ils ont, une formation complète pour prendre en charge ces personnes handicapées ? Quel est votre avis là-dessus ?
Là-dessus, moi je suis claire, il n'y a pas de définition à aujourd'hui sur la maltraitance et la maltraitance institutionnelle. Pour moi, on ne peut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession. Dans la majorité des cas, et très souvent, les professionnels font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Alors effectivement, oui, il y a un problème de formation, parce que dès lors qu'on n'a pas un accompagnement adapté, et un accompagnement adapté, c'est une première forme de maltraitance, mais un salarié dans un établissement ne peut pas dysfonctionner tout seul, ce n'est pas possible. J'ai entendu les témoignages précédents. Comment les autres personnels n'ont pas vu les brûlures ou le fémur cassé ? Enfin, il y a forcément une chaîne de responsabilité, et la première des responsabilités, c'est celle de la direction. Vous me ferez pas avaler qu'une direction ne sait pas ce qui se passe dans son établissement.
On parle d'un système qui dysfonctionne, on parle de maltraitance institutionnelle, donc ce dont vous avez été témoin. Ce phénomène, c'est que finalement, ça dysfonctionne à tous les étages.
C'est tout un enchaînement de dysfonctionnements, alors au sein de l'institution.
Ouais.
Et puis après, il y a également les ARS qui sont chargés de faire des contrôles, sauf que les ARS ne sont pas indépendantes de l'État et que parfois, ça nous est arrivé d'avoir certains exemples hors l'IME où j'ai exercé.
Les ARS, précisez-moi qui sont les ARS en fait ?
C'est les agences régionales de santé qui sont dans l'obligation de faire des contrôles dans les établissements.
D'accord.
Et parfois, effectivement, on a des contrôles de complaisance. On prévient l'établissement avant, donc charge à l'établissement de montrer que le plus joli... Alors, je vais être volontairement trash, mais les pièces qui ne sont pas belles à voir, les résidents qu'on laisse le plus souvent à l'abandon, ce qui était le cas de l'IME où je travaillais, puisqu'on était sur du polyhandicap grave, cela, on ne les montre pas. On évite aux inspecteurs d'aller les voir.
Mmh. Vous êtes de toute façon très... direct dans votre livre. Vous parlez d'indignité. Même s'il ne faut pas généraliser, comme vous le dites, certains comportements graves, selon vous, ont lieu dans ces institutions. Mais quelles sont les grandes orientations à prendre pour faire évoluer les pratiques et pour que cela aille mieux ?
Déjà, la première des choses, ces personnes polyhandicapées sont des êtres humains de droits constitutionnels fondamentaux. Je pense qu'il y a une véritable révolution dans notre société à mener. La rapporteure de l'ONU, c'est elle-même qui le dit. Les personnes en situation de handicap sont des êtres de droit et non des objets de soins. Déjà, quand tout le monde aura à peu près accepté ça, on avancera. Après, il y a côté loi. Moi, je suis effarée de me rendre compte que les parents ne connaissent pas les lois. Et pourtant, il y a la loi du 2 janvier 2002 qui, elle, est très claire, elle remet l'usager au centre du dispositif, elle donne 7 outils pour lutter efficacement contre la maltraitance et dans ces outils, la place de la famille logiquement est donnée pour pouvoir participer au projet de vie de son proche. Et je suis en train de me rendre compte que les familles ne le savent pas, ne se saisissent pas de ça, pas plus qu'elles ne se saisissent du fait que, logiquement, elles doivent avoir accès librement au dossier médical de leurs proches. Ensuite, il faudrait revoir les contrôles, mais ça, j'en ai déjà parlé, parce que côté contrôle et audit, et c'est des vraies propositions politiques qu'on fait dans ce bouquin, les audits, aujourd'hui, c'est chacun qui fait ce qu'il veut un peu à sa sauce, sans critères nationaux. Donc, on a des audits qui sont faits comme bon l'ensemble, comme bon chacun, pardon, pense le faire, sans avoir de grille de lecture nationale.
Et c'est pour cela que vous parlez d'un système et d'une maltraitance institutionnelle, Céline Boussier. Vous allez pouvoir continuer à nous expliquer tout cela et à réagir aux témoignages qui suivent dans cette émission. Dans quelques instants, nous allons accueillir Brigitte. Son fils a souffert du manque de personnel, justement, et d'indignité dans le centre où elle l'avait placé.
Et Dominique nous écrit sur Facebook, il y a plus de 30 ans de cela, j'étais une des rares directrices de centres de vacances d'été à avoir accepté des enfants handicapés. Ces séjours, en plus d'être conformes aux séjours traditionnels, furent des séjours riches en émotions, en partage et en acceptation de l'autre.
Europe 1.
Que faire contre la maltraitance des personnes handicapées dans les établissements spécialisés ? On en parle cet après-midi sur Europe 1 avec vous au 3921. Comment lutter contre les maltraitances des personnes handicapées dans les maisons spécialisées ? Vous racontez votre histoire sur Europe 1, Olivier Delacroix au 3921.
Et nous sommes en ligne avec Brigitte. Bonjour Brigitte, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Merci, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous ?
Moi, 58 ans.
58 ans. Alors, Brigitte, votre fils Naël était un petit garçon né polyhandicapé. Vous avez rapidement dû le placer en institut médico-éducatif. À l'âge de 4 ans, il est allé dans un premier centre. Il s'y sentait heureux. Il était bien là-bas.
Ah, il était très, très épanoui. Il faisait du cheval, de la piscine.
Ouais.
Il faisait de la cuisine, il faisait des sorties, il faisait de la musique. C'était un petit garçon, malgré qu'il soit polyhandicapé, qui avait la joie de vivre. Il ne parlait pas, mais vous montrez dans ses yeux que
ça allait.
Il était très, très heureux.
Mais son état s'est dégradé petit à petit et vous avez dû être obligé de le replacer. Vous avez eu du mal à trouver un nouveau centre adapté à ses besoins ?
Ah oui, énormément. Parce que d'abord, on habite dans le Lot-et-Garonne et c'est un département qui n'est pas très bien pourvu. Donc, il faut envoyer les enfants un peu loin. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal et les parents ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver un centre adapté aux polyhandicaps dans notre région.
Alors, on vous a conseillé un établissement. Vous vous êtes renseigné sur cet établissement, et vous avez remarqué qu'il y avait des commentaires négatifs sur celui-ci. Lorsque vous les appelez, que vous a répondu l'organisme chargé de vous informer et de vous conseiller face à tout ça ?
Alors, si vous voulez, quand il y a une demande de prise en charge, on vous attribue un centre.
Ouais.
Donc, moi, je suis allée sur Internet, tout bêtement, et je suis allée voir, et j'ai vu qu'il y avait eu des plaintes pour maltraitance, etc. Donc, je suis retournée à l'MDPH, qui est la maison
pour le handicap, oui.
Voilà, qui est départementale. Donc, et je leur ai dit non, je ne veux pas que mon fils aille là, il n'est pas question. Et là, on m'a répondu textuellement, allez-y, les yeux fermés, ce sont des amis. Vous verrez, il sera super bien traité. C'est tout ce qu'on a écrit, ce sont que des menteuses, etc. Alors, quand vous êtes un parent lambda et que vous dites, bon, ben, écoutez, si on me dit que c'est pas vrai, ben, allons-y, quoi. Il n'y a pas de souci, parce que si vous voulez, comme l'MDPH, c'est quand même eux qui font les orientations.
La maison du handicap, normalement, lorsqu'ils vous disent quelque chose, c'est leur métier. En tout cas, ils sont là pour ça. Normalement, voilà. on les croit. Donc, vous y êtes allés.
Voilà, j'y suis allée. Donc, j'ai fait une première visite où j'ai été agréablement surprise avec des locaux propres, des chambres semi-individuelles, ils étaient deux ou trois dans les chambres, une belle salle de bain, des belles pièces à vivre. Donc, j'ai dit, OK, ça ressemble étrangement là où est-ce qu'il était, donc on y va.
Et donc, un jour est arrivé le premier incident. Naël est tombé de son fauteuil, il s'est cassé une dent. Alors, vous êtes d'accord hein, pour dire que cela arrive, hein, qu'un enfant puisse, avec son fauteuil tomber. Mais racontez-moi ce que la direction vous a dit lorsque vous leur avez glissé l'idée de l'emmener chez le dentiste, parce que c'est ça qui est parlant.
Alors, si vous voulez, Naël, d'abord, il est rentré dans ce centre parce qu'il était nourri par gastrostomie.
Ouais. Ce qui veut dire
une tubulure qui est reliée à l'estomac et on les nourrit par une poche de nourriture.
D'accord.
C'est comme une perfusion, on va dire.
Donc, on n'a pas besoin de ses dents, finalement.
On n'a pas besoin de ses dents. Voilà, ça, c'est le premier point qu'il faut expliquer. Donc, Naël tombe, se casse une dent devant.
Donc, d'accord.
Je vais le voir, il a une dent cassée. Donc, je dis, il faut l'amener chez le dentiste. Et là, on me répond, mais pourquoi faire? Il ne mange pas.
Oui.
À quoi ça sert de faire arranger une dent à un gamin qui ne mange pas? Je dis, mais attendez, ce n'est pas question qu'il ne mange pas. C'est question que c'est... Un enfant qui a une dent cassée, on la lui fait réparer, point de barre. C'est tout.
Et est-ce que avant cela, qui a déjà vu vous interpeller, est-ce qu'il y avait eu d'autres détails qui vous avaient laissé penser que vous étiez mal tombé?
Eh bien, il y avait ça. D'abord, la dent cassée.
Ouais.
Après, j'ai retrouvé le fauteuil de Naël avec. Il était passé dans ce produit de. Ce produit de nourrissage, j'aime pas le mot, c'est comme ça qu'on dit, qui était passé entre la coque, parce que comme il était polyhandicapé, qu'il était hypotonique, il était dans un fauteuil coque attaché. Mmh. Et entre le fauteuil, c'était plein, et c'était moisi. C'est-à-dire que le fauteuil, on ne le nettoyait jamais. Après, il y a eu la dent cassée. Après, le refus, parce que Naël, tous les ans, il allait voir son neuropédiatre sur Bordeaux. Et le refus total d'aller à Bordeaux, il a fallu que je m'énerve et que ça soit moi qui prenne rendez-vous pour qu'il l'envoie à Bordeaux pour faire ses examens annuels, pour pouvoir que les médicaments fassent effet, quoi. Et là, j'ai l'envoyé chez le dentiste, parce que si vous voulez, il y a tout ce qu'il faut sur place, donc j'ai voulu qu'il aille voir un dentiste. Et là, la dentiste, elle est rentrée dans une colère noire, il n'y avait aucune hygiène buccale, il n'y avait rien du tout.
Mmh. Alors, on va voir que... comme ça, vous m'expliquez et on sent que dans ce centre, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Et puis surtout, on a l'impression que le personnel a l'air il n'a pas envie ou alors il n'y a pas assez de personnel. Mais on va continuer à en parler après la pub, savoir si il y avait des problèmes de personnel, s'il y en avait assez. Et je pense que vous avez des choses à nous raconter là-dessus, Brigitte. On se retrouve tout de suite.
Europe 1. Certains établissements spécialisés sont-ils des lieux de maltraitance des personnes handicapées? Comment lutter contre ce fléau? Vous nous racontez votre histoire au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des maltraitances dont sont victimes les personnes en situation de handicap dans des établissements spécialisés. Ça concerne l'un de vos proches, on vous écoute au 3921.
Et nous sommes toujours en ligne avec vous, Brigitte. Vous nous expliquez il y a quelques instants que vous avez remarqué un manque d'entretien finalement du fauteuil de votre fils. Qui dit manque d'entretien, je ne sais pas, moi à un moment je pense qu'il n'y a pas assez de personnes pour s'occuper de tous ces enfants et puis on accumule les tâches qu'on ne peut pas faire tous les jours et puis ce fauteuil il peut se retrouver avec des moisissures parce qu'on n'a pas le temps de le nettoyer tous les jours. Je vous dis ça parce qu'un soir Naël a fait une crise d'épilepsie et il n'y avait qu'une infirmière sur trois bâtiments pour 80 personnes handicapées. Est-ce que vous avez pensé à ça, à ce moment-là? Est-ce que lorsque vous alliez en visite dans ce centre, vous vous êtes fait cette réflexion qu'il n'y avait pas assez de personnel, finalement?
Disons qu'il n'y avait pas assez de personnel de jour, je m'en étais rendu compte, parce qu'il y avait, il y avait que deux éducatrices pour tout le groupe d'enfants. Et les éducatrices faisaient tout, c'est-à-dire qu'elles s'occupaient des enfants, mais elles passaient aussi leur temps à plier le linge, à amener le linge sale, le ramener,
Ce qui n'est pas leur travail normalement.
Ce qui n'est pas leur travail normalement, elles devraient s'occuper des enfants. Et donc, en 2010, Naël fait une crise d'épilepsie parce qu'il faisait des crises d'épilepsie quand il s'endormait,
oui.
Sur l'endormissement. Et là, bien sûr, le bol alimentaire est passé dans les poumons et il a fallu le réanimer, tout ça. Et c'est là, et c'est uniquement là que j'ai appris qu'il y avait une seule infirmière, la nuit, qui arrivait à 20h alors que l'équipe de jour partait à 19h. C'est-à-dire que pendant une heure, les enfants étaient, les 80 enfants dans les trois bâtiments étaient tout seuls. Mmh. Ça, je l'ai appris qu'à...
Et Naël a fait sa crise d'épilepsie à quelle heure?
Alors, tout ce qui a rapport à ce qui s'est passé ce soir-là, je n'ai jamais pu avoir aucun document, oui, que ce soit du centre... que des pompiers, que même de l'hôpital, j'ai jamais pu avoir un seul document écrit.
Est-ce que il a pu être réanimé, Naël?
Alors, ils l'ont réanimé, et donc ça s'est passé dans la soirée, on est bien d'accord. Moi, je n'ai été prévenue que le lendemain matin.
Mmh.
Et là, le directeur du centre a eu une phrase terrible en me disant, c'était pour Pâques, je me rappellerai toujours, il m'a dit, de toute façon, si on l'a fait réanimer, c'est parce que vous y teniez. Et ça... Sur le moment, si vous voulez, ça m'a choquée, mais c'est après que j'ai réalisé l'importance de cette phrase.
Mmh. Alors, je vais vous arrêter sur cette phrase et je vais me retourner vers Céline Boussier qui vient d'écrire « Les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas ». Parce que cette phrase, elle est lourde, elle résonne, cette phrase. Ces enfants qui n'ont souvent pas l'usage de la parole, qui parlent avec les yeux parfois, mais qui font passer tellement d'émotions. Ça veut dire que voilà, qu'un enfant qui n'a pas la parole, qui est handicapé, il n'y a que les parents qui veulent le laisser en vie, puisque c'est ce qu'elle voulait dire, cette phrase-là. Comment vous la traduisez, vous, Céline Boussier, cette phrase?
Elle est terrible, elle est d'une extrême violence. Pour moi, à mon sens, ces enfants parlent. Alors certes, pas avec la langue de Molière, mais il, comme vous le dites très justement, il parle avec les yeux, il parle en pinçant, il parle avec les sens, en criant. Je trouve ça d'une violence, hein, qu'on ait pu répondre à Brigitte. Cette phrase, hein, ça veut dire quoi? Clairement, on ferait, on ferait même pas ça à un animal. Quand vous emmenez votre chien pour être euthanasié, c'est même pas un procédé, c'est même pas les procédés que font les vétérinaires. Mmh. La parole des familles n'est pas entendue et la douleur de cette maman, elle est d'autant plus terrible que son fils est décédé dans des conditions absolument atroces et que je ne pense pas qu'à aujourd'hui, elle ait obtenu justice pour ça, parce que clairement, c'est plus qu'un décès, c'est un meurtre.
Mmh. En tout cas, là, on voit qu'à cette heure-ci, pendant une heure déjà, il y a un battement avec 80 enfants polyhandicapés qui sont seuls. Une infirmière pour ces 80 enfants qui arrivent à 20h. Brigitte, je suppose que vous avez... énormément culpabilisé et que vous culpabilisez encore beaucoup aujourd'hui d'avoir placé Naël dans ce centre.
Mais bien sûr, j'ai culpabilisé dès que j'ai su. Je culpabilise aujourd'hui et je crois que je culpabiliserai toute ma vie. C'est-à-dire que non seulement cette culpabilité, elle m'incombe, parce que je suis sa mère, je devais le protéger. Mais si vous voulez, elle a éclaboussé ma famille aussi.
Oui.
Parce que mes enfants, ils m'ont vu mal, ils m'ont vu... Quand Naël est partie, si je n'avais pas eu mes enfants qui m'ont soutenue, qui m'ont essayé de me faire comprendre, j'ai dit bien essayé, parce qu'ils n'arriveront jamais à me faire comprendre que ce n'est pas ma faute.
Mm-hmm.
Mais quelque part, c'est ma faute.
Non, c'est pas... Non. Mais bon, je suis comme vos enfants, mais...
Oui.
Ça n'est pas de votre fond d'Omblin.
Oui, Brigitte, je voulais vous demander, on a parlé de la réanimation de votre fils, et puis après, il est décédé tout de suite après, il a été quand même réanimé ou tout s'est enchaîné?
Tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que ça a commencé à Pâques 2010. J'ai appris la veille du mariage de ma fille, hein, que mon fils était en soins palliatifs. Donc ça, c'était en août. Et Il a tenu jusqu'à janvier. Il est décédé le 29 janvier 2011.
D'accord.
Bon, en tout cas, Brigitte, voilà, je pense qu'il faut que vous écoutiez vos enfants. Vous avez posé les bonnes questions à l'organisme qui est destiné à répondre à ces questions. Et puis, voilà, la MDPH partout en France essaie aussi de faire son travail. Je pense que le gouvernement doit s'emparer de tout ça et s'y intéresser de beaucoup plus près, parce qu'on en parle de plus en plus, grâce bien évidemment aussi à des lanceuses d'alerte comme Céline Boussier. En tout cas, merci pour votre appel. Et pour votre témoignage cet après-midi sur Europe 1, Brigitte. Et puis bah voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage. Et puis dans quelques instants, nous serons avec Christiane.
Europe 1.
Comment lutter contre la maltraitance des personnes handicapées ? Vous en parlez cet après-midi au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la maltraitance des personnes handicapées. Comment lutter contre ?
Et nous sommes avec Christiane pour conclure cette émission. Bonjour Christiane, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, je vous appelle de Béthune, j'ai 62 ans et je suis AMP. Et je suis AMP depuis les années 70, en 1977.
D'accord.
Donc, ça me fait une bonne expérience et actuellement, je suis en retraite.
Alors, des situations extrêmement graves avec des patients maltraités. Vous dites que vous en avez vu beaucoup et que la loi de 2002 a bien dit que nous devions être au service des patients et revoir nos pratiques, mais visiblement ce que vous avez vu n'est pas vraiment proche de cette loi, et vous êtes actuellement en procès avec la structure parce que vous avez remonté des témoignages à votre ancien directeur général de situations très graves. Donc expliquez-moi où est-ce que vous en êtes.
Ben, je n'ai toujours pas le résultat de mon procès. Ça va faire presque 3 ans. À chaque fois, la date est reculée. Mais j'irai jusqu'au tribunal s'il faut, parce que je l'ai très, très mal vécu. Je me suis souvent dit quelle erreur j'ai pu faire. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai été accusée injustement. Mais en fait, je faisais remonter régulièrement des dysfonctionnements et de la maltraitance. Et ça ne lui a pas plu. Et il m'a menacée un jour. Il est arrivé dans le couloir comme s'il allait me mettre une fessée. Donc à chaque fois, je lui disais que je n'avais pas peur de lui. Et il m'a dit que de toute façon, il aurait ma peau parce que j'étais une militante et qu'il savait à qui il avait affaire. Donc c'est aussi la loi 2002, aller travailler dans les structures, mais il y a encore des vieux relents de management un peu paternaliste où si on n'est pas dans les petits papiers, ou si on n'est pas en train de rire avec les familles sur le parking, on est très, très mal perçu.
Mais qu'avez-vous vu en fait qui vous a tellement choqué et que vous avez fait remonter ?
Oui, j'ai vu des gens secoués par le bras, où ils gardent les marques sur les bras. Dans mon étage, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup devant des gens, qui explique beaucoup, qui parle beaucoup. Et je peux m'entendre très bien avec des salariés, mais quand un résident ne peut pas parler, qu'il pousse des petits cris, comme des petits cris de chat, on l'appelait systématiquement « ouin, 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 ouin ». Donc moi, je disais à ces gens, je dis ben, « écoute, tu dis pas ça, c'est pas possible, tu fais pas ça devant moi ». Et s'il y a plein de situations comme ça, et si vous en parlez à un cadre, ils n'ont pas envie de prendre le risque de remuer tout ça. Il ne faut pas faire de vagues, il faut donner une belle image. J'avais assisté à une réunion générale où on avait un président qui nous disait qu'il voulait une belle vitrine et que maintenant ce serait comme ça. Et en fait, dans toute l'assistance, quand tous les salariés étaient là, j'étais la seule à dire « Mais monsieur, vous voulez une belle vitrine, mais moi ça fait des années que je fais plein d'activités inclusives où je les amène à plein de choses pour qu'ils aient accès à la culture. » Je n'ai jamais vu de cas s'intéresser à ça. Hein. Mais sur des postes de 10 heures, ils nous demandaient de faire une activité de 2 heures. Ce qui fait qu'il nous reste 8 heures de vie quotidienne. C'est énorme ce qui peut se passer en 8 heures de temps. C'est-à-dire qu'on gère aussi bien leur argent que les relations avec les tuteurs, qu'avec la famille, que comment ils investissent leur vie dans l'étage. Et c'est là où le bas blesse, où il se passe beaucoup
mais
de choses.
Mais Christiane, justement... quotidien. Justement, comment briser l'omerta, Christiane ? Comment faire avancer les choses pour que les parents soient plus au courant et puis pour que ces directions soient moins dans la peur de dire la vérité ? Parce que je pense qu'à travers la vérité, on résout les problèmes, ils sont là, on les met sur la table et puis on trouve des solutions. Là, on a l'impression qu'on a des directions à chaque fois qui sont pétries de peur dès qu'on émet le moindre...
Pas pour les salariés ni les usagers, je le dis carrément. Hein. Et c'est là, il n'y a pas de pro, il n'y a pas tellement de transparence. Pourtant, il y a des tas de procédures. J'ai assisté à des réunions. Vous saviez l'énergie qu'on peut dépenser en réunion dès qu'il y a un changement de cadre, dès qu'il y a des nouvelles lois. J'y ai tellement cru à cette loi 2002. J'espérais vraiment que ça allait faire évoluer les pratiques. Parce que moi, j'ai connu les premières années, dans les années 70, où j'ai travaillé dans une structure qui était tenue par des sœurs, où on attachait les enfants sur des lits avec des corsets. Mais les enfants ne semblaient pas en souffrir parce que c'était comme ça. Moi, ça me posait déjà question.
Oui.
Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne verrait plus. On ne verrait plus ce genre de choses avec des immenses dortoirs. C'est fini, ce temps-là.
Ce qui est finalement gênant, en fait, c'est que lorsque on vous entend parler, les uns et les autres, que ce soit les parents comme les soignants hein, ou les aidants, on a l'impression que... que ces enfants qui sont au milieu, eh bien, on parle pas d'eux en fait, on parle de peur, de poursuite, de procès et que rien ne bouge.
Mais oui, et puis aussi, moi je travaille, là je travaille avec des enfants, mais là j'ai travaillé longtemps avec des adultes. Même si vous en parlez à des tuteurs, les tuteurs eux-mêmes, ils sont pas frileux, mais ils savent qu'ils risquent leur place. Ça ne va pas améliorer leur relation avec les structures, alors qu'ils sont partie prenante avec nous. Mais on a l'impression que tout le monde est bloqué. Donc moi, j'ai toujours prôné le travail d'équipe. Le travail d'équipe aussi, c'est de se dire les choses hein, et de se tenir à l'écoute. Les gens ont peur à un moment donné pour leur poste. Et vous vous retrouvez un peu seul.
Vous retrouvez avec des témoignages comme celui d'Isabelle, comme celui de Laurent ou celui de Brigitte, que l'on remercie d'avoir témoigné cet après-midi. Mais avec des destins aussi brisés, parce que des enfants... sont mal en point, voire même décédés des suites de ces traitements. Donc merci aussi beaucoup pour votre témoignage, Christiane, cet après-midi. Et merci aussi à Céline Boussier pour ce lancement d'alerte et pour ces éclairages. C'est la fin de cette émission. On le voit, hein, le fléau des maltraitances sur personnes handicapées est un scandale d'État, un véritable enjeu de santé publique. Le manque de subventions de personnel et de formation a des conséquences graves. Certaines personnes handicapées sont déshumanisées, négligées, maltraitées. Et on l'a vu, entendu, elles en meurent. Le gouvernement a ouvert depuis 2008 un numéro pour tous ceux qui sont victimes ou témoins d'actes de maltraitance. Ce numéro, c'est le 3977. N'hésitez pas à le composer. N'hésitez pas également à vous renseigner sur handicap.fr pour les structures les plus adaptées à votre enfant, notamment pour votre enfant. On continue bien évidemment à pouvoir en parler.
Oui, vous avez commencé déjà il y a quelques jours. Vous continuez hein, d'écrire sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, d'échanger entre vous, Instagram, Olivier Delacroix officiel, et vous échangez le soir avec Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1, de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du gaspillage à la maison, qu'il soit alimentaire ou vestimentaire. Par quel geste est-il possible de l'éviter? Alors, si vous luttez contre le gaspillage global au quotidien depuis longtemps, c'est-à-dire aussi bien le gaspillage vestimentaire que le gaspillage de la nourriture,
toutes sortes de gaspillages,
si vous avez eu récemment une prise de conscience et que vous avez changé votre mode de vie, si vous êtes à l'origine d'une initiative pour moins gaspiller, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler et nous serons là pour vous écouter, ma chère Ambline. J'étais ravi de passer, comme d'habitude, cette heure qui passe si vite. Mais voilà le temps de vous laisser avec Carl Zero et ses tontons flingueurs.